11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. Six garçons, cinq filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupé et isolé du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison qu'on va découvrir maintenant en direct. Regardons ces images.
Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. On appelle cela le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur.
Like that's ever gonna happen. Oh, look.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Now the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café. Nous sommes le 10 août 2001 et on prend un petit peu de temps comme ça en plein milieu de l'été pour enregistrer un épisode audio qu'on va essayer peut-être de mettre à disposition sur internet. Allez savoir, je suis Guillaume Vendée, technophile, étudiant, enthousiaste, et je retrouve mon compère Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va, ouais, on est moi aussi étudiant, mais donc on démarre un nouveau truc, on va essayer de foutre ça sur internet. Ça a l'air assez rigolo, donc on va se la jouer journaliste, en fait, c'est ça?
Bah carrément, écoute, on va essayer d'être au moins aussi bon que les journalistes, ceux qui écrivent des articles le plus pertinent possible. Bon, c'est les sujets forcément qui nous intéressent, hein. On va parler un petit peu, je crois que t'as une grosse période en ce moment 3D, donc tu vas nous en parler dans 2 minutes. On a aussi surveillé de très très près ce qui se passe autour du web, parce qu'on sent que c'est peut-être le début de la fin, hein. On va en reparler, mais on n'est plus dans les heures de gloire. Enfin vous voyez, il y a des choses qui sont assez impressionnantes et d'autres qui sont assez décevantes. Et puis on va parler de matos, forcément, hein. Il y a plein de trucs qui tournent autour des processeurs, les Pentium 4, les nouvelles cartes graphiques, on va vous parler de tout ça. Et puis forcément, jeux vidéo, parce que ça nous occupe de plus en plus, je pense, avec Guillaume, chacun de notre côté, avec nos passions respectives. Guillaume, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu fais en plein milieu de l'été? Comment est-ce que tu t'occupes?
Bah écoute, je suis avec toi et je fais comme si on était à la radio. T'es trop radiophonique en fait, toi.
Et ouais, tu sais pourquoi?
Ça pourrait devenir un truc, un métier ou un truc comme ça.
Je vais te confier un secret. Je suis très très fan depuis des années de Max, qui anime la libre antenne sur Fun. Alors bon, là, il a eu des petits déboires, hein, et il y a eu des allers-retours au niveau de la matinale et puis il reprend des choses. Mais j'aime beaucoup. C'est via lui. Alors tu vois, moi, j'ai pas trop regardé Love Story là qui a été diffusé depuis quelques mois. Mais par contre, il en parlait énormément le soir. Et je crois qu'il y a un phénomène sociétal. Je sais pas si t'as suivi
clair,
ça.
C'est clair, c'est un phénomène. Mais bon, pas moi. Je regarde pas, très honnêtement, je regarde pas. Évidemment, je vois passer les titres et tout, tu vois, mais franchement, ça m'accroche pas du tout.
C'est quand même le début de la décadence, non?
Ouais, bah, t'as vu, il y a des manifestations et tout. Enfin, c'est extrêmement clivant, hein, Love Story.
Absolument. Bah, en tout cas, j'aime bien la façon dont Max en parle. Et puis, bah, je me dis peut-être un jour, j'aimerais moi aussi parler dans un micro comme ça, va savoir avoir des revenus derrière tout ça. C'est tout ce qu'on peut espérer. Je sais pas si toi, ça te tenterait. Mais...
Bah ouais, ça serait assez cool, effectivement. Pourquoi pas.
Du on coup, a peut-être un truc à faire.
On essaye un truc là. Allez, on essaye de faire comme si.
On essaie de se faire comme si, en tout cas on va garder précieusement l'audio, je suis sûr que dans 20 ans, quand on va réécouter ça, ça nous fera bien rigoler en tout cas. Bon, et juste une petite parenthèse, tu sais qu'il m'est arrivé une sale histoire, tu sais que je venais de Angoulême à La Rochelle là pour mes études en BX, je revenais chez mes parents un week-end sur deux, écoute, il y a la BX qui a lâché en plein virage, elle était pas toute jeune, hein, mais il y a la direction assistée qui a lâché en plein virage, elle est HS, et du coup ça y est, là ils m'ont trouvé mes parents une Saxo, une Citroën Saxo. Je trouve que j'ai gagné là en design, en confort de conduite. Écoute, je suis au top.
Bah, t'es pas mal là, t'es mieux que moi. Moi, j'ai une AX alors, si tu veux.
Bah oui, ouais. Bon, on est très Citroën, dis donc. Ouais. Il paraît que les Citroën sont des véhicules pour ceux qui aiment bien les technologies. J'ai l'impression que ça se vérifie.
C'est clair. Moi, j'ai une autoradio, c'est pour dire.
Très bien, très bien. Écoute, on va quand même essayer de donner des petites informations de fond dans cette émission, Guillaume. Même s'il fait chaud là, on reste au frais derrière nos ordinateurs
ouais,
pour enregistrer
30 ici,
tout ça.
Là. Mais c'est marrant hein, parce que c'est super lourd. Hein. C'est d'autant plus, tu sais, août est d'autant plus chaud que le mois de juillet a été pourri. C'est
bah
vraiment
ouais,
bizarre cette année si tu réfléchis avec les inondations qu'il y a eu en janvier et en mars. Ils nous ont dit ouais. qu'il y avait eu 12 mois de pluie exceptionnelle depuis avril 2000. Même en juillet, il y avait des pluies tropicales à Paris et maintenant c'est la canicule.
Ça peut pas arriver tous les ans pourtant ça, je pense que ça restera des phénomènes assez exceptionnels.
Espérons.
On verra. Allez, parle-moi un petit peu de tes lubies du moment, parce que t'es très très axé 3D. Bon, moi je t'avoue que je regarde ça d'un petit peu loin, mais c'est vrai que ça a l'air captivant tout ce qui se passe. Raconte-moi, c'est quoi tes passions du moment autour de la 3D?
Bah, il faut dire que j'ai de la chance, parce que tu sais, donc à la fac, du coup j'ai un bureau maintenant, ça y est, que je partage, et dans ce bureau, il y a des bureaux, évidemment, ou des tables, et sur une de ces tables, il y a écoute, tu me croiras pas, il y a une Silicon Graphics.
Ah, quand même? Ah ouais, vous avez les moyens, la fac, là.
Ouais, alors, c'est quand même un kiff, hein, de pouvoir m'amuser avec une Silicon Graphics. Ça a toujours été un truc de rêve, tu sais, un truc un petit peu intouchable, forcément. Mais ça, c'est une station Indigo, donc faut pas rêver non plus. Une Indigo, c'est une vieille machine, hein, aujourd'hui, hein. Ça se fait plus depuis 95. Mais bon, là, de beau reste. C'est un truc qui est sur R4000, donc un processeur RISC, en 64 bits. Et elle a une petite carte 3D Elan. Et ça tourne sous IRIX. Et bon, alors, évidemment, tout ça, c'est nouveau pour moi. Donc, je suis comme un petit fou. Et pour le boulot, en fait, elle sert juste de client pour se connecter au gros serveur du labo. Bon, les gros serveurs, c'est, il y a un Bipetium 3 à 700 MHz, c'est une station Sun, quadri processeur, je crois. Bon, il faut dire que l'Indigo à 150 MHz à côté, c'est pas très impressionnant, mais c'est une machine qui est un petit peu passée, mais c'était la station de travail ultime, hein, il y a une petite dizaine d'années, et à l'usage, elle reste plutôt fluide pour la modélisation 3D, elle est même plus puissante que mon propre PC moderne, et donc je me suis mis un peu à la 3D comme ça, il y avait longtemps
c'est
quand même.
C'est bon ça. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que t'essayes de faire du coup en 3D?
Bah, là, j'essaye de comprendre comment ça marche parce qu'en fait, tu sais que je m'amusais avec POV et Volume 4D il y a quelques années là sur mes vieux PC. Bon, bah, j'ai installé Max sur mon Windows 2000 et bon, alors évidemment, oui, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est vrai, je me suis fait chourer mon portable, mon Pentium 2. Et ouais, il a été volé dans ce même bureau ça d'ailleurs. Bah, écoute, ça, c'est des choses qui arrivent.
Ah, il y a souvent des vols comme ça, la fac, c'est dingue ça.
Ben normalement non, mais disons que j'étais un peu imprudent quoi de laisser un truc un peu cher comme ça. C'était fermé, mais bon à la fin c'est le genre de truc. Hein.
Depuis tu regardes tous tes proches de travers en t'imaginant que c'est peut-être lui ou elle qui a chouré ton.
Je sais que c'est l'un d'entre eux. Enfin bon, en tous les cas, j'ai perdu pas mal de données. Heureusement, j'avais un lecteur zip de Yomega. Tu sais, je mettais ça sur des disquettes de 100 mégaoctets. Bon évidemment c'est mieux qu'un Mega 44, mais enfin bon j'avais pas tout. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on m'a aidé à le remplacer et que j'ai un modèle plus puissant. C'est un Compaq Armada, bonne d'occasion aussi, hein, c'est un Pentium 3500, avec une rage 128 d'ATI, et je peux te dire que j'y fais gaffe comme un nouveau-né prématuré, hein, celui-là, hein, parce qu'il faut pas déconner. Donc j'ai essayé plein de trucs, et alors avec Windows 2000, tout marche pas super bien forcément sur tous les jeux, mais bon, là, je suis un petit peu à fond image de synthèse en ce moment, donc j'ai Max, et sur Silicon Graphics, j'ai découvert Blender. Parce que bon, étrangement, il n'y avait aucun logiciel 3D sur Indigo. Alors c'est peut-être une, tu vois, il n'y a plus de licence peut-être, parce que bon, c'est des trucs payants, mais il y a peut-être plus de licence, donc j'ai un peu cherché des logiciels craqués comme sur PC, et ben, sur Silicon Graphics, tu peux toujours essayer de trouver, quoi, tu vois. Du coup, j'ai trouvé Blender, qui est un logiciel gratuit, comme Core Persistence of Vision, mais en méga plus sophistiqué. Donc, j'ai la version 2.12, et il est tout petit, il tient sur une disquette, c'est absolument incroyable. Et donc, il a un modeler qui est super puissant, il fait la subdivision de surface, la peinture par sommet, c'est pas très intuitif, mais c'est vraiment très puissant. Et le rendu, bah, c'est quand même beau et rapide. Alors, tu peux activer le ray tracing, mais tu peux aussi t'en passer, hein, comme sur 3DS. Donc, t'as des images qui sont assez rapides, enfin, qui sont produites assez rapidement. Et tu as plein de sources lumineuses différentes, t'as des effets volumétriques, tu peux faire des animations avec du motion blur. Il y a même un moteur de jeu vidéo intégré, c'est assez dingue. Et comme il utilise OpenGL, bah, la station Indigo, elle accélère le tout. Si bien que tu modélises en face pleine et même texturée en temps réel, et c'est même mieux que sur mon portable. Qui est vraiment beaucoup plus récent, quoi. Donc franchement, c'est génial. Donc ce truc pourrait facilement devenir un outil pro. Franchement, Blender, c'est impressionnant, quoi. Même POV ou BMRT... Alors, POV ou BMRT, évidemment, ils donnent des images de meilleure qualité. Ils sont moins faciles à utiliser, mais ils donnent des images en meilleure qualité en ray tracing ou en radiosité, pour peu que t'aies le temps. Alors, la radiosité, donc tu me demandes ce que je faisais, mais en fait, je m'amuse avec la radiosité un petit peu. La radiosité, c'est quoi? C'est quand t'as des éclairages indirects. Donc en fait, c'est du ray tracing en pire, c'est-à-dire que c'est comme si tous les objets, ils avaient les rayons qui arrivent, ils les réfléchissaient pour éclairer ce qu'il y a autour. Donc c'est, voilà,
et ça, c'est recalculé en fait.
Et tout ça, c'est calculé. Et c'est extraordinairement coûteux en temps de calcul. Donc il y a BMRT. Bon, BMRT, c'est Blue Moon Rendering Tool, c'est un truc de fou, hein, parce que c'est Renderman. Mais Renderman, quand je parle de Renderman, c'est le vrai pipeline de Pixar. C'est vraiment le même.
D'accord, c'est leur matos, c'est génial.
C'est leur matos, et rien de moins. Et tu vois, Stuart Little ou Holoman, ou Mille et une pattes, bah, c'est fait avec ça, avec Renderman. Et BMRT, bah, écoute, c'est chaud à maîtriser, parce qu'en fait, c'est comme POV, donc ça prend un fichier de script, en fait, t'écris des trucs. En entrée, ça donne une image top niveau en sortie. Mais du coup, bah, c'est comme POV, soit t'écris des scripts très longs, soit tu l'interfaces avec des modeleurs comme Rhino. Bon, moi, j'ai pas Rhino. Donc c'est un petit peu difficile. Donc faire une image simple, c'est déjà pas évident, mais quand t'as de la radiosité, c'est assez incroyable parce que tu peux faire des trucs super réalistes, quoi. C'est-à-dire t'as une pièce, c'est-à-dire en gros t'as un cube, quoi. Hein, tu fais un trou dedans, tu mets un soleil de l'autre côté, et t'as la pièce qui est éclairée de manière réaliste. Tu mets des objets dedans, t'as des éclairages indirects et tout, c'est absolument incroyable. Bon, le problème, c'est que ça prend des heures et des heures, hein, d'avoir une image avec des de la lumière indirecte. C'est extrêmement coûteux, c'est encore vraiment...
Quelle que soit la modélisation, ça veut dire que toi, aujourd'hui, c'est quoi le temps de rendu le plus long que tu as fait, et pour nous donner un aperçu, pour quel type d'image?
Bah, si tu veux faire une image avec, par exemple, t'as une pièce avec une fenêtre, une table, deux chaises et voilà, quelques objets comme ça... Ah, pour avoir un truc qui converge avec, voilà, qui est pas trop, qui soit à peu près correct, ça peut te prendre 2-3 heures, hein.
Ah oui, quand même, oui. Donc, c'est le temps d'aller prendre un café à la fac et de revenir.
Non, c'est vraiment très, très long, quand même. Mais bon, c'est, enfin, moi, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'en termes d'image de synthèse, on est quand même à un point de rupture. Il y a plusieurs trucs qui me font dire ça. Alors, un truc tout bête, c'est déjà rien qu'à la télé, hein, tu vois les pubs. Tu vois la pub.
Je regarde pas beaucoup la télé, mais j'ai l'impression que t'as des trucs qui t'ont marqué, effectivement.
Ouais, t'as vu la pub EDF, le truc qui fait une sorte de SimCity.
Alors, oui, effectivement, c'est une espèce de timelapse, non, où on voit les éléments se construire au fur et à mesure. Ça a été filmé un peu en accéléré.
C'est ça, ça s'appelle La Vallée, et c'est dingue parce que c'est vraiment photoréaliste. Alors, EDF, en fait, veut communiquer sur le développement durable, puisqu'après toutes les inondations, tu sais, la cata de 99, là, ben, ils ont demandé à Buff de faire une sorte de simili-jeu de SimCity, où on perd si on pollue trop. Et vrai, c'est vraiment photoréaliste, quoi. Donc, alors, évidemment, vu le contexte, comment ça se passe, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est forcément artificiel, tout ça, mais c'est parfait, quoi, en fait. Tu vois, tu prends une image fixe, tu vois, pas animée, t'as l'impression que c'est juste une photo, quoi. Et d'ailleurs, un autre truc qui m'a marqué aussi à la télé, hein, c'est la démo de la Renault Velsatis. Donc, tu sais pas si tu l'as vu aussi, la...
Oui, je l'ai vu passer. Alors, elle m'a pas marqué plus que ça, mais qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans?
Bah, en fait, c'est comme l'an dernier. C'est le concept, c'est que t'as une voiture en image de synthèse qui est intégrée dans un décor réel.
C'est de l'image de synthèse. J'avais jamais fait gaffe.
Et ben voilà.
Je pensais que c'était filmé.
Et ben voilà. Et oui, parce que cette année, la Velsatis, en fait, elle se balade dans Paris, donc elle existe pas. C'est une voiture qui existe pas encore, en tout cas. Mm-hmm. Et elle se balade dans Paris de jour, de nuit, avec des travelling. On voit l'intérieur, et si on te dit pas que la voiture n'existe pas, qu'elle est en 3D, quoi, tu peux pas le deviner.
Je savais pas. Ouais.
Et là, vraiment, il y a des travelling, donc tout ça bouge, tu vois, c'est pas des plans fixes après plans fixes, et c'est vraiment, c'est à s'y casser le nez, quoi. Et bon, alors, évidemment, ils ont mis les moyens, donc c'est 1,5 million de francs, avec des parties de tournage en 35 mm, et puis le reste, c'est fait avec Maya et Mental Ray, donc on a des décors qui sont... alors, t'as deux types de décors, c'est toujours pareil. Ils se débrouillent un peu, donc les décors proches sont modélisés pour être éclairés correctement, et le reste, en fait, c'est une vidéo 2D, c'est une sorte de matte painting, quoi,
en arrière-plan.
En arrière-plan, exactement. Donc il y a plein de.
Est-ce que tu penses que des rendus aussi crédibles, ça pourrait à l'avenir faire croire aux gens des choses qui n'existent pas ?
C'est sûr.
Mais tu vois, pour abuser volontairement, bon, on n'en est pas quand même à reproduire des visages d'autres personnes, ça, je pense que il faut quand même des sacrifices de calcul.
Si. Alors déjà, d'ailleurs, bon, on parle de radiosité, la pub de la Renouvelle Satis, justement, il y a des plans, il y a plein de plans qui sont calculés en radiosité, des plans où tu as tous les éclairages indirects qui sont calculés, et c'est tellement compliqué, enfin c'est tellement difficile, même pour eux, même avec les moyens de Renault, qu'ils ont fait les plans qui sont en radiosité, ils ont été calculés en 1000 par 1000, alors que tout le reste, c'est des vidéos en 2000 par 2000. Donc même eux, ils ont été obligés d'avoir un quart de résolution, tellement c'était lourd en calcul pour faire le truc, alors que c'est une vidéo qui dure quelques minutes, hein, c'est pas un long métrage, tu vois. Mais tu sens que tout devient possible. Tu disais, est-ce qu'on peut refaire les visages ?
Des visages, oui.
Tu vas voir que oui, parce que alors, un autre choc que j'ai eu très récemment, c'est Shrek. Tu l'as vu, je suppose.
Ouais, bluffant, Shrek. Déjà, le scénario est hyper bien, et puis c'est trop bien écrit. Franchement, je me suis tapé des barres de rire, mais en plus, ouais, c'est très très bien fait. On rentre dans une nouvelle ère, je pense.
Mais tu sens que c'est un cran au-dessus de ce qui se faisait. Mmh. Tu sais que c'est seulement le 5e film en image de synthèse, après Toy Story, Fourmise et Mille et une pattes.
Je pensais pas qu'il y en avait autant, en fait.
Si quand même. Alors, c'est vrai que Fourmise et Mille et une pattes, ils sont sortis en même temps, donc déjà.
Mmh. Et puis, oui, là, on a bien vu la guéguerre hein, entre DreamWorks et Pixar.
Ouais, clair. C'est clair. Et Toy Story...
Ils auraient pu être plus originaux, quand même, pour s'affronter tous les deux, faire des films d'insectes.
J'ai carrément été surpris.
Passons.
Effectivement, que ce soit à ce point, le même thématique, c'était vraiment marrant. Mais bon, justement, tu vois, quand tu parles de Toy Story 1 ou 2... c'est des films, alors Toy Story 1 évidemment c'est pas étonnant, mais tu vois c'est des films où il y a assez peu d'extérieur, c'est toujours des intérieurs, c'est toujours des cadres qui sont un peu plus resserrés.
Puis Toy Story c'est des jouets, donc le rendu plastique est assez crédible et plus facile à restituer.
C'est ça, même sur Fourmise on est quand même dans des fourmiliers, on n'est pas dans des environnements qui sont super ouverts avec beaucoup de végétation, alors dans Shrek oui
c'est cadré,
tu vois, dans Shrek la végétation elle est riche, crédible, il y a des troncs qui ressemblent à des troncs, le feuillage est super dense, c'est un peu moins cartoon, même si ça reste très stylisé, tu vois, quand même. Mmh. Et puis, t'as des effets spéciaux de tous les côtés. T'as de l'eau, du vent, du feu. Enfin, c'est, voilà, les personnages. Alors, les personnages ont des squelettes. Enfin, en fait, quand tu regardes Shrek, là, Shrek, il a un squelette, une musculature qui est modélisée, qui agit sous la peau. Il y a la graisse aussi qui est modélisée sous la peau. Et donc, elle bouge en fonction de ses mouvements et elle influe sur ses mouvements à lui et sur le mouvement des couches de vêtements. Donc, en fait, les objets sont désormais des objets physiques qui sont simulés complètement. Et pour couronner le tout, ils ont des poils, certains, des poils ou des cheveux. Donc, c'est quand même super impressionnant parce que les poils, c'est pas des polygones, quoi, tu vois, c'est pas des polygones transparents comme dans les jeux vidéo. C'est des objets géométriques. C'est des courbes que tu traces et que tu éclaires une par une. Donc, Shrek. Bon, je crois que donc c'est DreamWorks PD, on l'a dit, qui a fait ça. Mmh. Bon, ils ont beau avoir 800 processeurs à disposition, c'est quand même une quantité phénoménale de calculs. C'est un boulot incroyable pour les artistes et pour les ingénieurs aussi, parce que faut voir que les mecs comme ça, ce genre de studio, là, comme donc chez PD, ils ont un pipeline propriétaire. Donc en fait, ils écrivent leurs propres outils, ils écrivent un petit peu tout, ils écrivent leur moteur de rendu. J'ai lu tout ça dans le magazine Pixel, en fait, de ce mois-ci. Mmh. Alors, c'est pas toujours parfait, tu le vois, mais Shrek, dans l'ensemble, c'est vraiment un truc qui repousse les limites de la prod en 3D, complètement. Et dans cette catégorie, il y a un truc que j'attends avec impatience, un autre film qui sort la semaine prochaine, c'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
Ah, j'ai pas entendu parler, c'est quoi ça ?
Moi j'ai vu, alors tu as vu les bandes annonces, je sais pas, t'as vu aucune bande annonce ?
J'ai même pas vu les bandes annonces. J'ai même pas profité de ça.
Après, bon, moi c'est vrai que je suis dedans, et puis ils en parlent dans tous les magazines et tout, en particulier, même les magazines de jeux vidéo, puisque c'est Square qui fait ça. Mais du coup, ouais, sur les bandes annonces, ça a l'air incroyable, hein. Donc, c'est le premier film en 3D japonais, en fait. Et ils ont mis les moyens. Donc, toujours sur Pixel, hein. J'ai lu que Square avait, pour l'occasion, construit carrément des locaux à Honolulu, à Hawaï. Ils ont enfermé, là-bas, donc, pas moins de 250 infographistes pendant 4 ans pour produire ce film. Et donc, ils ont fait le pari d'avoir, pour la première fois, des humains photoréalistes. Alors c'est donc c'est un film de science-fiction. Alors je l'ai pas vu, mais c'est un film de science-fiction avec voilà des héros qui donc c'est vraiment photoréaliste quoi. C'est-à-dire tu vois la nana, donc t'as une brune qui s'appelle Aki. elle est vraiment, voilà, t'as l'impression qu'elle est vraie, quoi, qu'elle est réelle. Et donc ce film, alors honnêtement, le scénario, j'ai pas très bien compris.
C'est compliqué, c'est les Final Fantasy.
Il y a des, voilà, ouais, il y a des esprits, sans des doute, fantômes, mais... des trucs immatériels. Bon, ils se battent contre, j'ai pas tout compris. Mais bon, techniquement, en tout cas, c'est bluffant, tu vois. C'est Akira, elle est vraiment à s'y méprendre, hein. Ses cheveux sont bluffants. C'est carrément le premier spot L'Oréal en 3D, on dirait.
Avec le rendu des textures de cheveux incroyables.
Bah, il faut dire qu'elle a 60 000 cheveux. Il a fallu les animer un par un. Et, enfin, oui. Évidemment pas à la main, mais je veux dire, ils sont donc, ce sont des objets individuels. Et ça a pris, selon Pixel, hein, toujours, selon Pixel Mag, 20% du temps de calcul total du film. 20% pour animer uniquement les cheveux.
Non, mais ça leur tenait à cœur, cette chevelure. Ça, c'est indéniable.
Ah ouais, bon, c'est cher, mais c'est beau. Alors, donc, tout est dans la démesure. De toute façon, hein, chaque plan du film contient en moyenne 430 calques. Parfois 500, donc c'est vraiment du délire, quoi. Et donc, ils utilisent un mélange de motion capture et d'animation manuelle. Donc, le résultat, ben, je le verrai bientôt, hein. Mais tu vois, sur les bandes annonces, on peut dire que, voilà, il y a quand même encore un cap de franchi. Et c'est vertigineux, tu vois, parce que, imagine, dans 10 ans, c'est ce que ça pourrait être. On pourra utiliser des humains de synthèse comme on veut, on pourra rajeunir ou vieillir des gens à la demande, on pourra les faire maigres ou gros, c'est maigres s'ils sont gros ou inversement, on pourra faire tourner des acteurs morts. C'est vertigineux.
Faire tourner,
quoi,
des acteurs morts, tu penses qu'on arriverait quand même à pas discerner, à faire la différence quand même, ou faudra du temps, j'imagine.
Bah, tu sais, maintenant, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, là, tout de suite, en 2001, avec Final Fantasy, tu te dis, dans 10 ans, c'est fini, on verra plus rien. C'est incroyable. Mmh. Et encore, bon, on n'en est pas là, hein, c'est vrai. Bon, il faut dire qu'aussi, il y aura peut-être un problème de financement, parce que il faut voir que Square s'est quasi ruiné pour faire ce film.
Ah, carrément, ils ont tout mis dedans, alors.
Ben, il a coûté 134 millions de dollars, c'est énorme. Ouais. C'est à tel point que si le film ne marche pas super, super fort, en fait, c'est tout Square, en fait, hein, et pas seulement Square Pictures, qui est en danger. Donc, c'est un pari qui est très dangereux.
Il pourrait fermer, tu penses?
Eh ben, écoute, en tout cas, il pourrait se retrouver en très grosse difficulté, puisque on est quand même en plein dans une grosse crise économique, hein. Ça serait bon, alors espérons que le film marche bien, parce que ce serait tellement dommage que l'infrastructure qui a été mise en place par Square soit perdue après un seul film. Ce serait vraiment dommage, mais bon,
ouais.
Pour le moment, le box office américain n'est pas folichon, et 2001, c'est vraiment pas une année faste économiquement parlant, quoi. Donc espérons, je sais pas.
Bon, écoute, très bien. Ça me fait plaisir de savoir que t'as l'enthousiasme derrière ces films et ces rendus. Je pense que je vais m'y intéresser un petit peu moi aussi. Je suis pas à l'abri de tester par exemple Blender, mais j'ai quand même l'impression qu'il me faudrait un petit peu de temps avant d'arriver à simplement mettre un cube et puis en faire ressortir quelques trucs.
Au début, c'est pas méga intuitif en plus.
Il faudrait que je regarde. J'ai vu, hein, il y a différentes fenêtres de composition en perspective, de face, etc. Ah bon, pas facile, mais je t'admire en tout cas. Moi, j'ai pas dimensionné suffisamment de temps là-dessus. C'est très chouette. Ça me fait plaisir que tu me fasses part de tout ça. Guillaume, il y a un truc qu'on suit un petit peu autour de nous et qui clairement là a une place de plus en plus importante, c'est tout ce qui tourne autour d'Internet, parce que là pour le coup tous les services en ligne ont l'air alors soit d'évoluer à vitesse grand V, soit d'être profondément en train de se restructurer, et t'as fait un petit focus là pour cette émission qu'on enregistre ensemble durant cet été 2001 sur ce qui se passe actuellement. Alors qu'est-ce qui t'a marqué, Guillaume?
Ce qui m'a marqué, c'est la crise. Je veux dire, de toute façon, c'est pas possible de faire autrement. Ça fait plus d'un an, finalement, que le Nasdaq baisse, et ça en finit pas. Donc, la bulle.
C'était peut-être ça, en fait, le bug de l'an 2000, au final.
Et tu sais que c'est, alors, clairement, hein, puisque, c'est une bulle qui concerne à peu près toutes les valeurs tech. Donc, enfin, on dit que c'est une bulle parce qu'il y a eu un énorme sommet en mars 2000, et après, ça a baissé, quoi. Et ça a beaucoup, beaucoup baissé. Et c'est pas juste Yahoo, hein. Yahoo, qui était clairement surévalué. Ou même les boîtes internet, d'ailleurs, hein, qui trinquent, c'est à peu près tout le monde. Et c'est un signe, d'ailleurs, notre Simone. C'est Simone et Sony Bazar.
Alors, pour le coup, je regarde pas beaucoup la télé, mais ça, les pubs de Simone, je les ai quand même
vues. Évidemment, tu la connais, Simone.
Ça fonctionne vraiment, ouais.
Et donc, Simone, avec son eBazaar, elle a été rachetée par eBay. Voilà, on n'a plus notre eBazaar, c'est fini. Amazon supprime 1600 emplois, Lucent en supprime 16 000, Ericsson 3300, Yahoo, il a perdu 90% de sa valeur en un an. Et donc, il révise ses profits à la baisse. Bah, tu parles. Évidemment.
Je pense que c'est autant de marques qui pourraient disparaître. Honnêtement, qui peut s'imaginer que, j'en sais rien, Amazon, un Yahoo, etc., puissent continuer à durer quelques années encore. Enfin, ça sent mauvais pour eux, quand même, non?
Bah, c'est une mauvaise passe. Et Amazon, je sais pas, parce que bon, ils ont quand même un business relativement solide. Et Yahoo, c'est compliqué à voir. Bon, c'est quand même un bon moteur de recherche. Un gros portail, quand même, encore très utilisé. Mais bon. Tu sais, les boîtes qu'on pensait à l'abri d'à peu près tout, vu leur taille, et d'à peu près toutes les crises boursières, elles tanguent gangs vraiment sérieusement, quoi. Compaq a perdu 40%. Compaq, aujourd'hui, il est en grande difficulté. Motorola a perdu 75% de sa valeur. Il pourrait disparaître. Compaq, t'imagines? Enfin, je veux dire, c'est carrément, ils ont pratiquement inventé l'ordinateur de bureau, quoi, tu vois. Enfin, le PC de bureau. Même Cisco, hein, qu'on connaît un peu moins, mais qui était quand même hégémonique sur l'équipement réseau, il a vu sa capitalisation divisée par 3. Il y a des monstres comme Time Warner ou Xerox qui perdent 50% de leur valeur. Et c'est pas que les Américains, parce qu'il y a aussi Toshiba, Fujitsu, qui licencient à tour de bras.
C'est toute la tech.
Bah, c'est la grosse crise, ouais. Et alors, les équipementiers télécom sont un peu épargnés, mais quand même. Et puis bon, pour eux, le gros sujet, c'est quand même les licences UMTS.
Bien sûr, les licences pour apporter des échanges de données à travers le réseau dans les airs, quoi.
Exactement, ouais. Bah alors, c'est bon. Alors, on a déjà un petit peu ça, mais alors là, on en parle de partout, de l'UMTS, hein, depuis que Bouygues fait son boudin.
Évidemment.
Je me sens assez peu.
C'est l'immode côté Bouygues, hein, c'est ça. Ils sont en train de faire des choses en se rapprochant des Japonais, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ils essaient. Alors, je pense qu'ils vont essayer de faire ça. Alors bon, c'est vrai que. J'ai dit ça, mais je me sens assez peu concerné puisque j'ai pas de téléphone mobile. Et quand on parle de très haut débit de poche, bon, pour le moment, c'est vrai que ça ne dit pas grand chose. Alors, cela dit, le GPRS arrive, ça y est, hein, donc, ça promet des débits plutôt honorables puisque c'est 64 kilobits par seconde. Et il y a pas mal d'experts qui assurent que ça sera largement suffisant pour tous les usages. Hein. Mm-hmm. Et surtout qu'ensuite, donc, c'est Edge qui est prévu et qui assurera carrément des débits dignes de l'ADSL, hein, sur mobile. Bon, franchement, que demander de plus que l'ADSL sur mobile, ouais, c'est déjà génial, quoi.
Ça permet de consulter toutes les pages web qu'on a l'habitude de consulter sur ordinateur en mobilité, quoi. Ouais. C'est assez dingue. Hein.
Mais pour ça, il faudra un vrai terminal. Qu'est-ce que je ferais de ma connexion Wanadoo sur un téléphone avec un écran minuscule comme ils ont.
Avec les résolutions et les deux couleurs, c'est clair.
Ah, il faudra un appareil sacrément différent pour que ça ait un intérêt, hein, comme ils ont au Japon, c'est vrai, par exemple. Et au Japon, ils ont des écrans qui sont assez grands, couleurs, et donc ils ont l'iMode. C'est clair que c'est pas avec un Nokia 3310 que je vais surfer sur le web, quoi. Ça n'a aucun sens.
Ouais.
Et d'ailleurs, honnêtement, si tu regardes la gueule des premiers appareils GPRS, donc t'as, je sais pas, l'Alcatel 502 ou le Sagem 959, ils donnent moyen envie, hein. Ils ont des écrans un peu plus grands, mais sinon, voilà, le clavier reste le même. Bon, on n'a pas le mini ordinateur avec tout internet dans la poche comme des trucs cyberpunk, quoi. C'est du super WAP, quelque part. C'est tout. Bon, alors, ça a évolué, hein. Donc, tu disais, Bouygues, il lorgne un peu sur l'iMode qui est, je crois, sur Edge, effectivement, ou en tout cas sur du GPRS et qui va probablement passer sur Edge. Peut-être que ça pourrait être une solution. Alors, le moins qu'on puisse dire, par contre, c'est que les équipementiers croient à l'UMTS. Donc, il y a, là, actuellement, tu sais qu'il y a 4 licences UMTS qui sont en vente. Mmh. Et alors, vas-y, à combien, à ton avis? Combien elles valent?
J'ai aucune idée du tarif que ça peut représenter en euros. En plus, tu sais, je suis un peu paumé.
Non,
moi,
un euro, on s'en fout. De toute façon, pour l'instant, on utilise encore les francs. Ils payent encore en francs, pour le moment. Attends l'année prochaine.
Ah, je sais pas, 500 000 francs?
Non. T'es gentil, toi. 32,5 milliards de francs pièce.
Oh, des milliards de francs, finesse.
Et ouais, c'est pas donné. Tu comprends mieux pourquoi Bouygues et Suez ont dit non, carrément. Il n'y a que SFR et France Télécom qui ont acquis une licence UMTS. Et en fait, c'est...
Mais c'est quand on voit ces tarifs qu'on prend la dimension de ce que ça peut représenter à l'échelle du pays, à l'échelle d'entreprise comme celle-ci.
Il faut dire que c'est quand même... Enfin, voilà,
c'est crucial.
C'est une infrastructure majeure du futur, donc il ne faut quand même pas exagérer.
Simplement pour des licences, des droits d'utilisation, quand on dit je ne sais pas si là encore ça pourra durer d'échanger comme ça des montants de ce type-là pour simplement le droit d'utiliser des longueurs d'onde, en fait.
C'est ça, c'est pour utiliser une partie du spectre, effectivement, c'est exactement ça. Ben, en Angleterre, c'est pire, hein. Tu sais que c'est 50 milliards de francs, enfin c'est l'équivalent de 50 milliards de francs la licence en Angleterre, donc c'est encore pire. En tout cas, ils ont du fric, hein, puisqu'il y a en tout 48 opérateurs européens qui ont craché les milliards pour avoir les licences dans leurs pays respectifs. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas dit. L'UMTS, ce serait la troisième génération, hein, de téléphonie mobile après GPRS, et ça atteindrait en théorie 2000 kilobits par seconde si tu bouges pas, et quand même 384 kilobits par seconde si tu bouges pas vite.
Qu'est-ce qui nécessite un tel débit, en fait? Enfin, c'est moi, tu vois, au bout d'un moment, il y a quand même des questions qui m'interpellent. C'est que, des pages web, comme tu le disais, les appareils en plus sont pas là. Demain, on pourrait imaginer avoir des appareils plus grands, mais qu'est-ce qui justifierait une telle quantité de données?
Pour l'instant, rien du tout, avec un ADSL.
Après, c'est les
kilobits.
Quantités de données qui... Excuse-moi, en fait, il y a aussi probablement le fait que plus tu proposes de données, plus on pourrait imaginer des usages derrière, peut-être.
Ouais, pour l'instant, c'est clair qu'avec 128 kilobits et un ADSL, t'es déjà peinard, quoi. Donc, je vois pas trop le truc. Il faudrait vraiment télécharger à tour de bras, ou je sais pas, peut-être si tu télécharges des films, tu vois, peut-être si tu télécharges des films comme tu télécharges de la musique, peut-être qu'effectivement
parfois c'est long, hein.
Ouais, voilà.
Aujourd'hui c'est long,
c'est ça,
quand je télécharge des musiques, c'est pas bon.
télécharger des albums en quelques secondes, peut-être des films en quelques minutes.
Tu utilises quoi, je fais une petite parenthèse, tu utilises quoi pour télécharger, toi, de ton côté?
Oh, je sais où, je vois où tu veux en venir.
On peut le dire, on est entre nous, c'est pas comme si on allait diffuser cet enregistrement partout.
On utilise, j'utilise plus Napster, évidemment. Ouais. Ah oui, puisque Napster est mort, hein, on pouvait s'y attendre un petit peu. C'était trop beau pour être vrai, évidemment. La RIAA l'avait attaqué, tu sais, il y a 2 ans. Bon, ils ont réussi. Napster, c'est fini. Hein, donc, Napster, en fait, il bloque la musique qui est protégée par le droit d'auteur, c'est-à-dire à peu près tout. Donc, ce qu'il avait. Et ouais, donc Sony, EMI et compagnie, ils ont réussi leur coup. Hein, donc, on comprend quand même hein, qu'ils aient eu peur de Napster, mais bon. C'est pas fini parce que c'est la boîte de Pandore. Maintenant que la voie est ouverte, bah il y a déjà des trucs. Alors il y a IMster. Donc c'est un clone de Napster, mais il repose sur IM, tu sais, la messagerie d'AOL. Mm-hmm. Donc c'est un truc. Bon, moi j'étais sur AOL avant, mais là je suis sur Vanadu. Donc là moi je teste en ce moment même un truc qui s'appelle Gnutella et qui a du potentiel. Et bon.
J'ai entendu parler. Puis tu sais que j'aime beaucoup Nutella en plus, donc.
Et, moi, je sens que, comme tu imagines, il y en a plein d'autres qui vont arriver. À mon avis, bon, c'est loin d'être fini cette histoire.
Ça va être un peu le jeu de du chat et de la souris. De toute manière, j'imagine que c'est le début d'une longue histoire. Mais excuse-moi, du coup, je t'ai fait faire une parenthèse sur les réseaux. Du coup, il y a des éléments que tu voulais apporter sur les licences UMTS.
Bah, de toute façon, UMTS, c'est pas encore, c'est dans 4 ou 5 ans. Au moins, quoi. Hein, je pense que c'est pas encore pour tout de suite. Bon, c'est des investissements qui sont monstrueux pour SFR et France Télécom, hein, qui doivent faire le réseau d'antennes. Hein. Ils ont acheté la licence à 30 milliards, c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'ils fabriquent les antennes relais. Il faut qu'ils fassent le réseau lui-même, quoi. Donc, c'est encore des milliards. Hein. Évidemment, donc
oui. C'est une taxe pour avoir le droit de travailler, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah après t'as le monopole. C'est pas un monopole puisqu'il y en a plusieurs, mais voilà, évidemment t'as pas beaucoup de concurrents, quoi. Donc c'est évidemment hein, vu la dépense que ça représente, c'est pas étonnant que Bouygues se concentre sur Edge. Donc c'est quand même moins cher à mettre en place. On verra bien qui va gagner sur le long terme. Enfin, il y a quand même gros à parier que MTS l'emporte parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de soutien. Comme je te disais, il y a plus de 40 opérateurs en Europe qui l'ont adopté. Bon, voilà, je pense que clairement, c'est quand même le sens de l'histoire. Tu vois, Gnutella, tu télécharges des musiques, ça ferait du bien que ce soit plus rapide. Si demain tu mets des films, et bon, je sais que ça commence à se faire un petit peu. C'est le genre de truc qui pourrait effectivement être utile. Bon, on verra.
Ouais, il faudra quand même que les réseaux s'adaptent pour tout le monde pour que ça se démocratise, mais bon. Ok, tu voulais nous parler aussi de plusieurs sites web qui t'ont marqué, du coup, là. L'actualité des sites web, c'est beau, ça.
Bah, le web devient de plus en plus universel et omniprésent, hein, par le labo. Tu sais que j'ai une connexion permanente, du coup, gratos. Mm-hmm. Et je me surprends à aller sur Internet pour tout et n'importe quoi, en fait. Ça y est, pour aller voir des astuces de jeux vidéo, tu vois, des critiques de films ou de livres. Il y a des sites de films, d'ailleurs, comme celui d'Amélie Poulain, qui a un site à lui, pour faire la promo. Même Julien Clerc a un site, alors c'est pour te dire. C'est à quel point c'est universel, quoi.
Toi, tu vas consulter le site internet de Julien Clerc.
Je ne sais pas comment je sais ça, je ne veux pas, je ne sais pas comment je suis au courant de ça. Enfin bon, t'as vu ce nouveau truc, quand même, qui est arrivé en janvier, pour le coup, ça c'est extraordinaire, c'est Wikipédia.
C'est beau ça, c'est vachement chouette, je trouve. Bon, je sais pas si ça pourra durer longtemps, mais c'est le principe est hyper beau en tout cas.
Ouais, c'est une encyclopédie en ligne totalement gratuite. Alors pour le moment, il y a pas grand-chose en français, mais en anglais, ça commence à prendre de l'ampleur et c'est entièrement participatif. Donc toi, moi, on peut rajouter des articles hein, ou en modifier.
Bon, du coup, ça soulève quand même des questions parce que fiabilité de quelque chose qui est contribué comme ça par les gens et qui vient pas d'une autorité sachante et certifiée, j'imagine qu'il y a quand même majoritairement des conneries qui doivent circuler. Mais
non, mais après il y a de la modération quand même. Il y a des non. Alors évidemment, l'avantage, tu vois,
est-ce qu'ils arrivent à suivre, tu vois.
Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, c'est vrai que c'est tout début, tu vois. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des articles sur n'importe quoi en fait, des trucs sérieux, c'est comme dans une vraie encyclo. Et des points de pop culture, tu vois, des trucs extrêmement obscurs, voilà, potentiellement absolument tout, tu vois, si un gars dans le monde sait un truc, il peut le mettre sur Wikipédia. Et ça, c'est vraiment le truc le plus proche de la notion d'encyclopédie originelle, finalement. Donc c'est un potentiel qui est énorme, et donc il y a des modérateurs qui, pour l'instant, voilà, évidemment, pour pas que tu commences à faire des pages où tu expliques pourquoi Pol Pot a été mal compris, en fait. Non, c'est évidemment, il y a des gens qui contrôlent. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, ils vont avoir pas mal de boulot à l'avenir, les pauvres. Quand Wikipédia sera vraiment connu et utilisé par tout le monde, mais voilà, le concept est purement génial. Et voilà, et ça bouge super vite, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est quand même vraiment réjouissant, quoi.
Il faudra qu'ils changent leur logo, hein, par contre, parce que c'est imbitable à cette boule avec des mots, on comprend rien. Je sais pas s'ils évolueront pas. Il faudra qu'ils fassent évoluer leur logo.
Si c'est le début,
je vais leur envoyer un mail.
Ouais, ils vont changer ça, c'est
J'imagine. C'est quoi qui tourne sur ton ordi? On va parler un matos dans peu de temps, mais juste vite fait, c'est quoi ton système d'exploitation, toi, en ce moment? Je sais que t'as été très Linux, non?
Ouais. Alors, j'utilise Linux au bureau, ouais, effectivement. Et donc, ça, j'ai pas mal appris de trucs sur Linux, mais je suis toujours Windows. Okay.
Distribution que vous avez au bureau?
Ah voilà, c'est une Red Hat.
Moi c'est Red Hat qu'on a.
C'est une Red Hat aussi, ouais. Ouais. C'est une Red Hat. Je sais plus quelle version, je pourrais plus te dire, mais ouais.
Et à titre perso, j'ai testé un truc qui s'appelle Mandrake. C'est pas mal aussi comme distribution.
Ah,
c'est
ouais,
rigolo.
Ouais, il faudra que je vois ça.
Dans un magazine, j'ai eu un CD.
Ouais, il y a plein de CD maintenant dans les magazines. Tu peux tester, c'est vraiment super. Et tu me fais dire ça parce que je me trahis, parce que tu sais très bien que j'ai Windows 2000 sur mon PC.
Évidemment.
Parce que je fais tourner des jeux dessus et que donc j'ai Windows 2000. Bon, je l'avoue.
Ça tourne moins bien que 98 quand même sur pas mal de choses, hein. Il y a des jeux qui tournent pas très très bien sur 2000 versus 98.
Ouais,
moi je suis resté sur 98.
Hein. Ben, 98 il est moins stable, mais il est aussi beaucoup plus léger. Et puis il y a des problèmes de driver des fois, des jeux qui sont pas compatibles, ça arrive. Et donc il y a Windows XP qui arrive aussi, lui, en octobre, et qui promet, voilà, il promet plein de trucs. Il promet d'une part de lisser un petit peu, d'adoucir un petit peu toutes ces incompatibilités que 2000 peut avoir. Ouais. Et puis, il te promet une interface nouvelle, une interface, voilà. Alors, parce que sous le capot, on va pas se mentir, hein, c'est quand même très similaire à 2000. Mais il a une nouvelle interface qui s'appelle Luna. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas macOS X, hein, la macOS 10. On dit comment? 10 ou X?
Il me semble qu'on dit macOS X.
Ah bon, ok, parfait.
J'ai un doute. Je sais qu'on disait macOS 9, mais je sais plus ce qu'on dit pour les nouvelles versions. Tu sais, moi Apple, je suis pas trop.
Ah ouais, mon ami, tu vas t'y convertir. En tout cas, les XP.
Je sais pas ce que j'irai trouver chez Apple. Enfin, j'imagine la Windows, l'interface juste ouf quoi.
Ah, tu trouves qu'elle est belle, toi? C'est ça qui est fou.
Moi, j'adore cette interface. Enfin, c'est vraiment un truc qui me parle, moi perso. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la forme des fenêtres. Ne serait-ce que, écoute, c'est simple, la petite croix de fermeture là dans le coin des fenêtres, je la trouve trop sympa, moi.
Ah mais, bah bon. Écoute, non, d'accord. Donc les gros boutons colorés bleu, vert, rouge, un peu rondouillés comme ça. Tu t'aimes bien.
Ouais, je suis plutôt sensible
d'accord
à ce genre de
moi
truc.
Je trouve que c'est une esthétique play school que je me serais
pas. Mais c'est
pas
ça que j'aime bien. Tu vois, est-ce que c'est pas ça l'informatique? Est-ce que c'est pas de mettre de côté cette austérité mal assumée? Est-ce que finalement l'avenir de l'informatique, c'est pas justement d'avoir des interfaces qui se rapprochent des trucs réels et justement de rendre ça accessible à tout le monde quoi. Regarde ma mère, si demain tu lui mets des interfaces qui sont plus des fenêtres grises mais un peu colorées, un peu ludiques, est-ce que tu penses que c'est pas ça qui ferait qu'elle utiliserait plus l'informatique aujourd'hui?
Écoute, je suis complètement d'accord, mais t'es pas obligé de le faire en version Play School. En fait, regarde, macOS X, il est quand même plus classe, non? À quoi? C'est quand même plus classe.
C'est joli. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est joli.
Tu vois, c'est une question de, bon, après, c'est une question de voilà, bon, bah, ouais, on va, c'est les goûts et les couleurs, tu sais, on va pas terminer là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que Windows XP apporte.
Tant mieux, ça offre de la diversité, par contre. Ça, c'est
oui,
bien.
Oui, 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 non, c'est sûr. Puis bon, de toute façon, je passerai à XP, ne serait-ce que parce que voilà, c'est la nouvelle version. Il y a les nouvelles versions des nouveaux logiciels, Windows Media Player, alors, t'as vu qu'il y a trois versions d'ailleurs, c'est marrant, XP.
Oui, j'ai vu, ça c'est une technique commerciale, hein, on va pas se mentir, ils veulent en vendre plus et se faire de la marge un petit peu plus.
Ouais, il y a la perso, la pro et la serveur. Donc en gros, ouais, tu peux prendre une perso, l'upgrader en pro, je crois, et bon, la serveur, évidemment, c'est un peu différent. Et il est mieux protégé aussi, surtout, c'est ça qui est marrant, c'est que, tu sais, alors là, je crois qu'ils ont vraiment abusé. J'attendrai qu'il y ait une version craquée, je pense, parce que il faudra carrément téléphoner à Microsoft pour avoir une clé d'activation. C'est à moins que tu aies une connexion internet qui fonctionne dès l'installation, mais bon, je sais pas trop comment ils vont faire. Mais en gros, ouais, sinon, t'as une clé de Windows. Tu donnes la clé Windows par téléphone, et cette clé, il la mélange avec une sorte de hash de ta configuration, et te donne une clé unique pour activer Windows.
Est-ce que tu penses que ça va pas se faire pirater, genre de truc?
Comme tout ça, évidemment que oui, ça va se faire pirater à un moment, quoi. C'est clair et net.
Mais pour l'entreprise, par contre, et tu penses que là, j'imagine quand même pas qu'en entreprise, pour tous les ordinateurs qui vont se mettre sur XP, il va falloir que le petit technicien informatique appelle Microsoft pour chaque appareil, quoi.
Non, mais il va y avoir des licences multipostes, ce genre de truc, quand même, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis pas trop pressé, hein. Voilà. Puis, finalement, le look austère de 2000 me convient parfaitement. Ça me va.
Je te reconnais bien, là.
Je pense que tu vas lorgner sur les Mac, hein. Et je reconnais qu'à quoi est plutôt sexy. Et Steve Jobs a annoncé des Power Mac G4 à 700 MHz, quand même. Il faut bien dire que les PowerBook Titanium sont magnifiques. Non, quand même.
Ouais, ouais, mais alors par contre, avant qu'il y ait beaucoup de choses qui tournent dessus, c'est peut-être pas demain la veille, mais tu vois, aujourd'hui, n'importe quel jeu, voilà, je fais tourner tous les jeux que je veux sur mon PC, quoi. Donc, je vois pas du tout pourquoi j'irais lorgner du côté du Mac aujourd'hui, quoi. Mais bon.
Ouais, je comprends.
Parce que moi, mon PC, soyons clairs, hein, j'ai beau être à l'IUT, l'utilisation de mon ordinateur à titre individuel, c'est quand même beaucoup du jeu. Et après, quand je dois bosser, je suis sur les stations de l'IUT, quoi. Donc, qui sont sur Red Hat, et ça marche très bien comme ça.
Non, puis bon, de toute façon, c'est, alors, c'est quand même des ordinateurs qui sont à 2,4 kg pour des écrans 15 pouces. Écran plat, évidemment. Enfin, tu vois, c'est vraiment impressionnant, ces écrans plats, là. Les écrans LCD, ils commencent à devenir vraiment impressionnants. Alors, évidemment, c'est Apple, hein. Donc c'est 25 000 balles, le titanium à 15 pouces. Donc, c'est quand même pas rien. Et t'as vu qu'Apple a aussi annoncé une famille d'écrans plats de 17 à 22 pouces. Ouais. C'est des écrans plats, voilà, qui, dont le dernier, il s'appelle, je crois, Cinema Display, ou un truc comme ça. Bon, on parle même pas du prix, étant donné que le 17 pouces, il a 8500 francs déjà.
Bon. c'est bien du Apple.
Ouais, c'est presque abordable, hein, parce que j'ai vu un 17 pouces Noevo à 11500 francs. Donc c'est quand même.
Ouais, effectivement.
En 1280 par 1024. Hein, donc voilà. Bon, on sent que petit à petit, les écrans LCD vont commencer à arriver sur les bureaux. Et voilà quoi, les G4.
Est-ce que tu penses que c'est l'avenir que tous les ordinateurs soient équipés d'écrans plats, ou est-ce que ça restera je pense que voilà, si t'as de la place et que tu veux économiser un peu de sous, tu garderas des écrans classiques cathodiques, et puis si jamais t'as vraiment les moyens, ou pour certaines situations d'entreprise, des écrans plats, ou est-ce que tu penses que tout le monde va passer à l'écran plat?
Si les écrans plats sont au même prix, il n'y a aucune raison de garder des écrans qui pèsent 15 kilos.
Ça va se démocratiser, tu penses.
C'est impossible à déplacer. Ça prend une place incroyable sur les bureaux.
C'est vrai.
Si tu peux avoir.
Si ça se trouve, dans le futur, on regardera ça avec du recul. On se dira, mais comment on pouvait prendre autant de place sur les bureaux avec des écrans, quoi.
Ouais, je pense. Moi, je vois ça comme ça aussi, ouais, effectivement.
Alors, justement, tu parles des écrans. On va changer un peu de rubrique, là, après avoir abordé ce qui se passait sur Internet. On va parler un petit peu de matos. Je sais, c'est un truc qui t'intéresse depuis toujours. Tu vas nous faire un petit peu le point de ce qui te marque en termes de matos informatique. Peut-être que tu vas pouvoir aussi donner des conseils pour ceux qui pourraient être amenés à écouter cette émission, pour savoir de quoi ils doivent s'équiper pour avoir une machine au top, tout simplement.
Mais c'est vrai que je parlais des G4. Moi, je pense qu'ils sont vraiment impressionnants, hein, ces processeurs, hein, les processeurs des Power Mac, donc désormais. Mm-hmm. Et donc, c'est des processeurs complexes, hein, qui ont des unités vectorielles Altivec qui tiennent la dragée haute au Pentium. Bon, en même temps, c'est pas une super période pour Intel, hein, c'est vrai. Outre qu'ils subissent la crise aussi, qu'ils licencient 5000 personnes, le Pentium 4 déçoit beaucoup. À tel point d'ailleurs que les prix vont sans doute baisser pas mal, hein, assez rapidement. Faut dire que c'est chaud, hein, dans le monde des processeurs en ce moment. Hein, c'est donc Motorola tient la corde avec ses G4 qui vont atteindre le gigahertz à la fin de l'année. L'an prochain, il y a IBM qui prévoit des PPC 750X à 800 MHz. Alors, c'est déjà pas mal, mais il pourrait attendre les 2 GHz d'ici un an. Et Apple pourrait profiter de ces processeurs-là pour se fournir chez IBM, en fait, et plus uniquement chez Motorola. Ça leur ferait une deuxième source, et je pense que ça leur ferait, ils en bénéficieraient grandement, et bénéficieraient du coup directement de la future architecture Power 4, qui serait aussi un...
Mais ça veut dire qu'ils vont devoir adapter pas mal de choses quand même sur macOS pour faire tourner ce nouveau processeur.
C'est de... Non, je pense que non. Les Power 4 et les GK, les Power 4, c'est du Power PC. Okay. C'est la même architecture que les Mac modernes sous G3, G4, en fait.
D'accord. Ok.
Si se fournissent chez IBM, ça roule. Donc alors par contre, évidemment, les Power 4, c'est des puces pro. Donc c'est des trucs qui, tu sais, c'est des machins typiquement qui sont faits pour fonctionner en tandem ou par 4 quasiment sur une grosse carte CPU. Voilà, donc là t'as du multicœur, c'est impressionnant, quoi. D'ailleurs, si tu veux une preuve qu'Intel est dans la panade, puisque bon, là tu commences à parler de Power PC à 2 GHz, tu te dis Intel, oulala. Tu peux regarder Génération 4. Le Génération 4 de ce mois-ci, je crois, hein. Ils ont fait un comparatif entre un Athlon 1,3 GHz et un Pentium 4 à 1,5 GHz, et un autre à 1,7 GHz.
Bon. Normalement, il devrait y avoir des différences significatives.
Ben, c'est ce que tu croirais. Bon, alors évidemment, déjà, un 7 GHz, c'est énorme. Hein. Netburst, c'est fait pour ça, pour monter très haut en fréquence, à la différence de PS6, qui chauffe énormément. Mais pour le moment, en fait, faire moins de choses, mais plus vite, ça amène pas forcément d'avantages. Parce que ce Quake 3 et ce Combat Flight Sim, l'apport des Pentium 4 est vraiment minime, puisqu'on est dans les 2 FPS, même avec 1,7 GHz. C'est quand même assez dégueulasse. Bon, les perfs synthétiques sont les perfs synthétiques en nombre entier sont pas terriblement mieux puisqu'elles sont même inférieures à 1,7 GHz sur le Pentium 4 que sur l'Athlon. Le seul vrai gros avantage, c'est la bande passante mémoire et les nouvelles instructions SSE2, c'est un véritable avantage. Le problème, c'est que c'est encore sous-exploité sur les Pentium 4, ça. Puisque les Pentium 4 utilisent RAMBus, donc c'est pas de la DDR, c'est du RAMBus, c'est un autre type de mémoire qui est extrêmement rapide, mais très très cher. Et en fait, ça, c'est plus un handicap qu'autre chose, parce qu'ils ont beau avoir une très grosse bande passante mémoire, ça alourdit quand même la facture, donc c'est pas forcément un super avantage. Bon, la baisse de prix globale des processeurs fait des Pentium 4 un achat qui peut être raisonnable en fait sur les entrées de gamme, paradoxalement, puisqu'à 2000 balles tu peux avoir un 1,4 GHz, alors que c'est 3700 balles quand même hein, pour le 1,7 GHz, et bon, la différence se justifie pas à ces niveaux de prix quoi. Donc globalement, c'est paradoxalement, c'est encore les Athlon et les Pentium 4 d'entrée de gamme qui sont encore les plus intéressants, c'est assez étrange.
Comment tu penses que, bon, j'aime bien te faire jouer au jeu de la boule de cristal, mais comment tu vois les choses dans 10, 20 ans, comment tu penses que ça va évoluer? Je sais que tu m'as déjà parlé de la fameuse loi de Moore qui explique que, en gros, la puissance basée sur le nombre de transistors double grosso modo chaque année, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire qu'on pourrait se projeter, on peut rêver peut-être 2 minutes, à quoi est-ce qu'on pourrait arriver dans 10 ou 20 ans?
Bah, déjà, à des processeurs 64 bits, ça c'est clair et net, mais parce qu'en fait, ils sont déjà là quelque part. Alors, pas chez nous, pas dans nos PC, mais côté pro, déjà, Intel va passer aux 64 bits avec Litanium. Alors, c'est une grosse nouveauté quand même. C'est un CPU qu'on n'aura jamais entre les mains, nous, pauvres mortels, hein, puisque c'est un truc de serveur ou de station de travail.
Donc là, pour le coup, il y a besoin, me fais pas mentir par rapport à tout à l'heure, mais j'imagine qu'il faut réécrire pas mal de choses pour faire tourner une 64 bits, en fait.
Et on parle de Litanium, donc en fait, oui, plutôt. C'est parce qu'en réalité, c'est un CPU qui est développé avec HP, et il est fondamentalement incompatible avec les autres puces Intel. Alors en fait, les Litanium exécutent les programmes de 32 bits, mais via une émulation, en fait, et ça donne des perfs qui sont complètement désastreuses. Donc en fait, Intel veut pousser une nouvelle... Ah ben, c'est justement ça, passer 2 minutes alors sur les détails un petit peu d'Itanium, puisque c'est une nouvelle architecture et surtout c'est une nouvelle manière de coder les processeurs, puisque ça s'appelle EPIC. Intel veut pousser un nouveau truc qui s'appelle EPIC. Alors EPIC, c'est explicitly parallèle machin truc. Bon, c'est en gros, c'est du parallélisme explicite.
Jean-Michel Acronyme m'a encore frappé, d'accord.
Complètement. Donc c'est du parallélisme explicite. Alors en fait, ça consiste en quoi? Tu sais que les Pentium qu'on a nous là, voilà, dans nos PC, c'est des trucs qui sont super scalaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent exécuter plus d'une exécution par cycle. Donc, si tu prends un Pentium 3, là, comme j'ai moi, bah, c'est 3. Et donc, tout seul, en fait, il regarde passer les instructions du programme, les flux, et à la volée, il décide de les réorganiser pour exécuter en parallèle celles qui sont indépendantes.
Un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci, un peu de cela.
Exactement, dans la mesure de leurs moyens. Bon, c'est transparent pour le programmeur, c'est transparent pour le compilateur, donc c'est super, mais c'est compliqué. Parce que extraire donc ce qu'on appelle de l'ILP, c'est-à-dire de l'Instruction Level Parallelism, c'est complexe et c'est très coûteux en transistor, puisqu'il faut faire décoder, voilà. En gros, il faut faire des processeurs intelligents. Les processeurs intelligents, bah, évidemment, c'est compliqué à faire. Donc, au lieu de faire ça par le processeur, au lieu de faire, cette réorganisation, tout ça, de le faire par le processeur, pourquoi ne pas déporter l'optimisation sur le compilateur? Et donc utiliser les ressources processeurs qui sont libérées pour faire plus d'unités de calcul. En gros, des processeurs plus bêtes, mais plus puissants, plus massifs, plus larges. Donc c'est ça le principe d'EPIC. Donc on fait un processeur très large, qui peut exécuter 9 instructions par cycle, en tout cas pour cette version, et après on laisse au compilateur le soin d'analyser le code, de manière en profondeur, hein, et de créer des batches, en fait, des blocs d'instructions que le CPU pourrait exécuter directement en parallèle. Et bon, évidemment, le processeur, lui, il exécute les batches dans l'ordre, de son point de vue, tu vois. Mais donc, il exécute les instructions batch par batch, et c'est le compilateur qui se frappe le boulot le plus compliqué. Le CPU, il fait ce qu'on lui dit. Donc, par contre, ça veut dire que si le compilateur n'est pas très efficace, du coup, le CPU sera sous-utilisé. Mais sinon, tu peux compter sur une puce qui est 2 fois plus rapide à fréquence égale qu'une puce 32 bits. Même à la fréquence de base de l'Itanium, de cet Itanium-là, donc le premier qui était à 733 MHz, ben il sera plus puissant que les meilleurs Pentium 4. Alors, qui va utiliser ça? D'abord, c'est les stations de travail HP, Silicon Graphics, IBM, etc.
Et pour quand ils ont besoin de calculs très, très, très particuliers et très lourds qui peuvent pas être réalisés facilement
oui,
avec
ils ont
des architectures 32 bits.
Oui, oui, et puis ils ont leur logiciel spécifique qu'ils utilisent et qui est optimisé pour Itanium, quoi. Et pour te donner une idée, une station Silicon Graphics sur Itanium, une SG750, ça démarre à 125 000 francs. Et on peut monter jusqu'à 240 000 francs avec une Quadro 2 et des logiciels professionnels. Bon, c'est trop tôt pour dire si IA64 est le futur d'Intel. Alors, j'ai dit IA64, parce que de son côté, AMD a une autre vision. AMD, c'est un peu la star du moment, hein, clairement, avec ses Athlon. Et lui, il a déjà finalisé son standard x86-64.
Et c'est... Donc c'est encore du 64 bits.
Exactement. C'est pour ça que je dis que le 64 bits, c'est clairement l'avenir, parce que de l'un côté, d'un côté comme de l'autre, ce sera l'un ou l'autre. Et c'est vrai que si on regarde bien, du côté AMD, c'est du 64 bits, mais c'est juste une évolution en fait de IA32. C'est-à-dire que c'est IA32, mais avec du 64 bits et des trucs en plus, mais c'est rétro-compatible.
D'accord.
Et comme c'est rétro-compatible, c'est aussi plus simple à mettre en œuvre, c'est plus simple à commercialiser, à exploiter aussi.
Mais est-ce qu'il y a les mêmes avantages que pour l'Itanium?
Pas du tout. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple à exploiter par les compilateurs. Et donc, AMD va vraisemblablement, à un moment, sortir des CPU grand public, lui, et pas des CPU pour station de travail, comme c'est le cas, ou pour serveur, hein, comme c'est le cas pour Intel. Donc AMD va sortir vraisemblablement des CPU 64 bits assez vite, en fait. Et donc peut-être des Athlon 64 bits. Et des trucs pour tous, pas seulement pour les pros. Et je sais pas si Intel aura un truc à mettre en face à ce moment-là, parce que Itanium a pas l'air du tout fait pour aller dans des PC. Et si tu regardes Transmeta, a acheté une licence x86-64, ils ont aussi acheté HyperTransport, qui sont deux technologies AMD. Donc AMD a l'air d'avoir le lead, là, quand même. Et donc, si on doit avoir des processeurs à plusieurs gigahertz, à 64 bits, ce sera plutôt des AMD que des Intel, parce que chez Intel, pour l'instant, les Pentium 4, ça rame un peu, quoi.
Mauvaise période pour Intel. Bon, j'imagine que soit ils vont rebondir assez vite, soit on va les voir peut-être, pourquoi pas disparaître. Enfin, ce serait quand même assez.
On n'en est pas encore là quand même, mais c'est vrai qu'ils
sont. On n'en est pas là, mais c'est les tendances un peu. Ouais. Bon, écoute, on surveillera ça ensemble. Et puis, la concurrence quand même, c'est aussi positif pour l'émulation des technologies. C'est quand même cool. On s'arrête un petit peu du côté des cartes graphiques. C'est devenu un vrai sujet, hein, ça, Guillaume.
Oui, avec Nvidia qui a le vent poupe quand même. Hein, 62% de chiffre d'affaires en hausse. Prévu en 2002. Donc, non seulement avec les cartes graphiques, mais aussi les chipsets, les puces pour cartes mères, puisque Nvidia, hein, qui propose pour le moment des cartes intégrées Elsa Gloria 2 dans ses cartes mères, elle va passer à la GeForce 2 GTS, carrément, dans des directement intégrées. Donc, les cartes Nvidia proposeront aussi ce qu'ils appellent les MCP, c'est Media Communication Processor, et c'est des trucs qui sont issus de la Xbox, en fait. Et ils utiliseront aussi l'hypertransport d'AMD pour relier le tout, donc tous les morceaux ensemble, si tu veux. Donc, ce sera un chipset qui s'appellera le Enforce 420, et ça a l'air d'être vraiment un excellent choix pour l'Athlon ou Enduron. Enfin, c'était un Athlon ou Enduron avec un Enforce, à mon avis, ça va être un sacré gros truc. Donc, on n'arrête plus Nvidia, parce que voilà, la GeForce 3 explose un petit peu tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment photo. Donc, il y a du choix encore, quand même, hein, si tu veux t'équiper. Entre ATI, Hercule ou Nvidia, bon, voilà, c'est t'as quand même le choix, mais la palme des perfs et de l'excellence technologique, c'est quand même Nvidia. Hein. C'est aussi la plus chère. C'est aussi la carte la plus chère, de très loin. Bon, 145 FPS sur Quake 3 en 1024x768, ça se paye 3500 francs quand même. Et il faut un PC qui suit, hein, donc un PC à moins de 2 GHz, c'est pas la peine. Mais bon, pour ce prix-là, t'as 64 mégaoctets de VRAM, t'as le Transformer Lightning, et t'as la pleine compatibilité Direct 3D 8. Avec des shaders programmables, donc c'est le grand luxe, quoi. Voilà, c'est quasi le futur. Et c'est clairement une carte haut de gamme. Et ça complémente quand même d'autres trucs, parce que évidemment, si t'as pas les moyens, tu peux t'offrir quand même une GeForce 2 Pro ou GTS, voire une GeForce 2 MX, qui sont donc il y en a pour toutes les bourses. Et tu auras quand même du Transformer Lightning, mais par contre, tu auras des shaders non programmables. Donc c'est un petit peu moins tourné vers l'avenir, mais il y a quand même un large choix, quoi. Alors. Quand je dis que c'est l'avenir, je peux le prouver.
Vas-y, prouve-le.
Puisque la Xbox utilisera un dérivé de GeForce 3. Et donc la Xbox qui sortira l'année prochaine, hein, la future console de Microsoft va sortir avec une GeForce 3. Et donc les jeux utiliseront de plus en plus les shaders de Direct 3D 8 pour des effets toujours plus sophistiqués. Donc tu vois ça dans Aquanox, par exemple, un petit peu. Tu vois, donc ils utilisent des pixel shaders programmables. Et du coup, tu peux donner de la brillance aux objets, tu peux éclairer au pixel près. tu peux donner de la texture aux textures, si j'ose dire, tu sais, avec du bump mapping ou des effets de relief. Et bon, voilà. Clairement, hein, après la révolution du transformer lighting, c'est-à-dire la déportation des calculs vectoriels de transformation et d'éclairage sur la carte graphique, bah, tu sens que les pixel shaders, c'est l'étape d'après, et voilà, que Nvidia est encore en pointe là-dessus, quoi. C'est clair. Bon. Si c'est un peu pour le futur, du coup, c'est clairement plus cher. Qu'est-ce que tu peux prendre si tu veux jouer au présent? C'est pour les jeux d'aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que... Mm. Ben, on a le choix, quand même, hein, et c'est assez intéressant aussi. On a le choix d'une GeForce 2, d'une Radeon, d'ATI, ça y est, ils ont enfin sorti leur Radeon, ou d'une Kiro d'Hercule. Bon, ATI, ça y est, enfin, ils ont sorti leur fameuse Radeon, donc les alternatives au GeForce 2, qui sont très crédibles, ma foi, puisqu'on a du Transformer Lighting, on a des shaders non programmables, mais on a un excellent décodeur MPEG 2 et une sortie télé de qualité. Donc c'est pas mal pour 1800 francs, pour avouer, hein, c'est assez plutôt correct.
Après, si c'est le meilleur rapport qualité-prix peut-être à ce stade.
Ouais, bah, c'est clair que si tu veux jouer très bien au jeu du moment et que tu veux te faire des DVD.
Si je veux refaire Half-Life que j'ai adoré là, que j'avais bouclé, je voudrais le refaire avec un meilleur framerate, vraiment une meilleure fréquence d'image et une meilleure résolution. C'est peut-être ce vers quoi je peux me tourner, non?
Bah ouais, mais alors ça dépend. Si t'as mis 800 francs à mettre dans une ATI, mais pas 3500 à mettre dans une GeForce 3, clairement. Mais si t'as moins d'argent, tu peux même pour Half-Life contenté d'une Hercule, d'une carte Hercule.
Ah ouais.
Puisque, tu sais, donc Hercule fait toujours confiance à ST Microelectronics pour les puces Kiro. Donc ils ont sorti une Kiro 2, et en fait c'est du Power VR, comme la Dreamcast. Donc c'est la carte la moins intéressante qui est technologiquement parlant, quoi, hein, puisqu'il n'y a pas de Transformer Lighting, il n'y a pas de shader programmable, mais elle n'est pas chère, tout simplement. Et donc elle donne de bonnes performances dans les jeux du moment. Pour 1300 francs, tu peux jouer à Half-Life 2 correct, quoi, tu vois, plutôt bien. Et d'ailleurs, dans le même esprit, t'as même la Kiro 1 qui se trouve...
Half-Life 2 ?
Half-Life 1, pardon.
Ah oui, pardon, parce qu'il y a des rumeurs, mais non, c'est pas encore
Kiro
confirmé.
C'est la Kiro 2, je parlais.
Ah, Kiro 2, d'accord. Okay.
La Kiro 2. Et dans le même esprit, d'ailleurs, la Kiro 1 se trouve toujours à 700 francs. Dans les, dans les 3D Prophète.
Effectivement, c'est hyper accessible.
3D Prophète 4000, 700 balles. Bon, c'est un rapport qualité-prix imbattable pour les jeux actuels. Ça sera dépassé assez vite, tu vois. Parce que voilà, tu sens que c'est la fin pour Kiro.
Ah, ça permet de renouveler une tour et de se faire plaisir, quoi.
Bah, technologiquement, c'est clair que c'est complètement obsolète, une Kiro 1. Mais pour 700 balles, limite, ouais, tu peux jouer à des jeux de maintenant et d'un peu avant, adorable. Dans de très bonnes conditions, tu vois. Donc voilà. De toute façon, on le sait, hein, la 3D Prophète sera prochainement, ils vont passer au GeForce 3. Donc bon, ça veut dire que c'est voilà, c'est un peu dommage, tu vois. ATI va certainement suivre, mais finalement, tu vois que la profusion de cartes 3D des débuts, bah c'est fini, quoi. 3DFX c'est mort, les renditions c'est
ça
mort.
Ça se concentre un peu.
Les S3 c'est mort, les Tsung, les Matrox, voilà, tout ça c'est fini, quoi. Donc ouais, ça se concentre vachement.
Bah ça simplifie peut-être le choix aussi, hein. Écoute, super. Là où je suis ravi, c'est que on parle de jeux vidéo et bon, on a tous les deux nos petits coups de cœur du moment. J'ai presque envie, c'était pas forcément prévu là dans cet épisode qu'on enregistre et qu'on diffusera à l'avenir probablement sur un site internet qu'on va bientôt se monter, j'imagine. Mais c'était pas prévu, mais est-ce que ça dirait pas qu'on parle un peu de jeux vidéo, mais tu vois, on met de côté un peu l'angle tech et puis on parle vraiment plus spécifiquement de jeux vidéo. Est-ce que ça te tente?
Ouais, je sais pas, parce que je suis triste.
Oh non, me dis pas que tu vas me reparler de la Dreamcast
mais
encore.
Mais si, mais je suis obligé.
Non. Bon, allez, c'est parti. Allez, rubrique jeux vidéo, parle-moi un petit peu de ta Dreamcast. Il faut dire que je suis chez un ami, il a passé à plusieurs reprises et bon, c'est vrai que la machine était juste incroyable. Ça sent pas bon.
Ben non, mais c'est une période bizarre aussi pour le jeu vidéo, hein, et pour moi en particulier, puisque moi je suis en pleine dissonance cognitive là, parce que il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se prendre une Dreamcast. La console est pas chère, tu te rends compte qu'elle est même pas à 1000 balles. Et il y a plein de super jeux, et le meilleur reste à venir en plus, hein, et pourtant, bah, pourtant elle est morte. Ouais, c'est tout simplement. La Dreamcast, c'est un zombie magnifique. Tu vois, Sega s'est écroulé. Il est en quasi-faillite. Hein. Même son président slash mécène vient de mourir. Et je suis même pas sûr que l'échec de la Dreamcast l'ait pas achevé, le pauvre. Puisque...
Il était question qu'elle puisse être distribuée sous la forme de licence et qu'elle puisse être reconstruite par d'autres constructeurs, enfin redistribuée. T'y crois, toi, ça?
Ouais, non, j'y crois pas. Et puis en plus, ils sont dans une merde telle. Tu sais que je parle du président de Sega, c'est pas pour rien. Tu sais, Isao Okawa, c'était un sacré mec. Hein. Isao, c'était un homme d'affaires. Bon, tu me diras. Voilà, c'est le mec était président de CSK Holdings. C'était une boîte de services informatiques, hein, plutôt prospère. Et il se trouve que que CSK Holding est actionnaire majoritaire de Sega depuis 84. Et donc ça fait d'Isao le président du conseil d'administration de Sega. Et le mec, il aimait la boîte. Mais vraiment, genre, il aimait vraiment beaucoup la boîte. Parce que après le semi-échec de la Saturn, il va donner 40 millions de dollars de sa fortune personnelle à Sega pour financer la Dreamcast. Et il efface les dettes de Sega envers CSK.
Il y croit, mais...
Et il cède à Sega ses actions Sega et CSK. Et ça, ça représente un cadeau de 700 millions de dollars. C'est absolument incroyable. On peut dire que ça fait des années que Sega est sous perfusion et maintenu en vie par Okawa. Et la Dreamcast, c'est son bébé. Il y croyait, il a tout fait pour la pousser. Ils ont même dépensé des sommes complètement déraisonnables en marketing, hein, faut bien le dire. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc Okawa est mort, il avait 74 ans. Bon, il est mort d'une crise cardiaque, il avait un cancer. Donc je suppose que l'échec de la Dreamcast n'est pas directement responsable. Mais enfin, ouais. Je suis un peu triste pour lui parce qu'il a vu l'effondrement de Sega, tu vois. Sega qu'il a soutenu si longtemps. Bon, Sega n'est pas mort en fait, techniquement, mais bon, sans Isao et sa fortune, il va se passer quoi en fait ? Parce que c'est vrai que Sega, officiellement, désormais, ben, c'est un éditeur de logiciels, il ne fait plus de consoles. Mais même, il croule sous les dettes, il a un besoin d'argent vital, tout de suite. Donc les jeux originaux décalés, les paris technologiques comme autant de bénis des bornes de Yu Suzuki, c'est fini. Hein, ils vont capitaliser en publiant leur blockbuster
ça
partout.
Sent la fin.
Faire suite sur suite, c'est couru d'avance. C'est même pas sûr que ça suffise, en fait. Donc oui, c'est vrai, le discours officiel, c'est on fait plus de Dreamcast nous-mêmes, mais la machine n'est pas morte. D'autres constructeurs peuvent le faire sous licence, c'est ce que tu lis dans Dreamcast Mag, hein, et ça, c'est le directeur marketing de Sega qui le dit. Ok, sauf que depuis mars, personne ne se presse pour relancer la machine. Hein. Les stocks de Dreamcast s'épuisent, ils baissent, ils s'épuisent, et puis quoi, rien n'indique que personne ne va venir les regarnir. Hein. Il suffit de voir l'E-Cube de cette année. Et c'est un nouveau départ pour la Sega et la Dream. Tu parles. Phantasy Star Online est annoncé sur la future GameCube de Nintendo, qu'on a enfin vu un peu en détail d'ailleurs. Gun Valkyrie est annoncé sur Xbox. Et Half-Life, lui, il est annulé sur Dreamcast. C'est simple, hein. Il n'y a que le stand Sega qui montrait de futurs jeux Dreamcast et strictement aucun éditeur tiers. Ça sent vraiment pas bon. Voilà. En réalité, non. Les derniers jeux développés pour la machine vont sortir dans une sorte de feu d'artifice de hit. Voilà. Et puis plus rien après le bouquet final. Le noir. Le silence de mort.
Bon, tu m'as déprimé là avec cette histoire, Guillaume. Mais j'avoue que c'est pas la première fois que j'entends cette tristesse. Il y a des alternatives là, si on veut se faire plaisir en matière de jeux vidéo
déjà,
sur console.
Déjà, tu peux te faire plaisir avec une Dreamcast parce que c'est quand même la meilleure console du monde encore pour le moment.
C'est vrai.
Un dernier jeu, Shenmue. Une claque. Une vraie. Non seulement le jeu Shenmue, hein, c'est le plus beau jeu sur la console, et c'est le plus beau jeu sur console tout court, mais c'est une expérience inédite. Hein. C'est un vrai petit monde, vivant et ouvert, dans lequel tu te balades librement, tu mènes ta petite vie. Il y a un souci de taille incroyable, jamais vu. C'est un degré d'immersion jamais atteint. Bon, l'histoire, c'est que t'es Ryo. Ryo, c'est un ado qui veut se venger qui veut venger le meurtre de son père. Et donc, il habite Yokosuka, qui est une petite ville japonaise. Bah, tu t'y crois, Yokosuka. C'est blindé de PNJ qui vivent leur propre vie, qui blindé de détails, dont plein sont interactifs. Les boutiques, les bornes d'arcade, c'est tellement réaliste que tu dois chercher un job et que parfois c'est même chiant comme en vrai. Tu te rends compte que c'est tellement réaliste que les PNJ, ils vont au boulot le matin, le midi ils vont acheter des trucs au combini. Il y a même des fois la queue. Tu dois faire la queue pour acheter un truc au combini le midi parce que c'est l'heure de pointe. J'y crois pas.
Ils vont pas aux toilettes, mais on est à deux doigts.
On est à rien. Écoute, on n'a jamais vu un jeu de cette ampleur, quoi. Plus de 3 gigaoctets sur 3 GD-ROM, dont un jeu avec un GD-ROM bonus. Voilà, pour le coup, il y a Shenmue, mais il n'y a pas que Shenmue. Il y a sur Dream, il y a Grandia 2, Skies of Arcadia, il y a les Sonic Adventures, c'est les meilleurs Sonic depuis les premiers sur Mega Drive. Hein. Il y a Star Lancer, qui est mieux que Wing Commander encore. Hein. Il y a Ferrari F355 et Sega GT qui m'ont même converti au jeu de bagnole. Bon, ok.
Je sais que t'aimais pas ça pour
non, bon, c'est aussi parce qu'on m'a offert en volant en solde pour Dreamcast, mais bon, ça aide.
Ah.
Mais je parle même pas des jeux en ligne comme Quake 3 ou Phantasy Star Online. J'y ai même pas eu l'occasion d'essayer, mais ça a l'air d'être un autre niveau encore. Hein. Phantasy Star Online, c'est un JRPG en ligne. C'est un MMORPG sur console. Et c'est de la belle 3D, hein. C'est pas du Ultima Online. Hein. C'est vraiment... c'est très joli, quoi. Voilà. La Dream aurait pu continuer comme ça à aligner les hits, hein, avec Outrigger, Propeller Arena, qui sont des jeux d'arcade, ou même Bomberman Online, ou la Revision 2 de Phantasy Star. Bon, voilà. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle meurt. Si je comprends, intellectuellement, je comprends. La PlayStation a déjà une image qui est tellement forte. Beaucoup de gens l'ont attendu, quoi. Et puis, elle a un lecteur DVD. Bon, moi, je comprends pas. Hein. Une console, c'est fait pour jouer à des jeux. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle lise les DVD? Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est le moment de guetter les soldats et de se goinfrer de jeux Sega au rabais. C'est quand même triste, mais oui, c'est clair. L'avenir appartient à la PS2, la Xbox et la GameCube. Sniff.
C'est quand même dingue de d'assister à ce genre de situation où il y a un truc qui marche, qui est encensé par tout le monde, qui est dynamique et sympa, qui re,
cueille pas trop de critiques finalement, mais qui est obligé de s'éteindre, c'est vraiment triste. Bon, tu as cité des alternatives. Alors oui, t'as raison. Je comprends pas trop pourquoi les gens utilisent l'argument du lecteur DVD de la PlayStation 2, mais bon, j'imagine que ça répond à certaines situations. Et puis surtout, tu nous teases un petit peu la Xbox là qui va arriver de Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui arrive là-dessus?
Oui, écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'elle est affreuse. Voilà. Autant la GameCube est petite et mignonne, autant la Xbox est grosse et moche.
Ah bon, dis-moi, c'est quelle taille? Je me rends pas compte, j'ai pas suivi les news à ce sujet.
Ça a l'air d'être un truc assez mastoc, assez trapu.
On a vu la manette ou pas?
Ouais, on a vu la manette. Ouais, c'est un truc assez gros aussi, qui est un peu bizarre.
Américain, quoi.
Mais c'est très américain. Ouais, la console est grosse et lourde. Honnêtement, elle a une esthétique qui ferait passer un VHS pour un truc super design. Bon. Cela dit, on s'en fout, honnêtement. Moi, ça m'est un peu égal, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est un monstre. Hein. C'est une puissance extraordinaire. Dedans, il y a un Celeron Pentium 3, couplé à une GeForce 3 customisée, et ça atomise la PS2. Il faut imaginer, hein, le Pentium 3, c'est un truc qui va être à 600 ou 700 MHz, contre 300 pour la PS2. Et puis donc, non seulement le processeur a des instructions vectorielles, comme la PS2, mais la GeForce aussi, puisqu'elle a le Transform and Lighting. Donc en fait, il y a double puissance, quoi. Et les pixel shaders, donc il y a des pixel shaders programmables, du coup, puisque c'est une GeForce 3, on en a parlé avant. Et ça, la PS2, elle a juste un graphic synthesizer qui est purement 2D, en fait. Et bon, la PS2, c'est en plus une TNA à programmer. Alors que la Xbox, c'est DirectX8, tu vois, c'est comme sur PC. Elle aura même un disque dur. Donc en gros, c'est un PC de dernière génération. Bon, pour l'instant, on a vu des photos, tu sais, les photos sur magazine de Oddworld ou de Halo, de DOA 3. Bon, ça a l'air cool, peut-être que l'Arta a l'air plus fin que le 2, c'est vrai, mais bon, c'est dur à dire pour le moment si elle va tuer comme c'est prévu, vu la puissance de la bête. Écoute, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est prévu pour le début de l'année prochaine. Mais je suis quand même très curieux, effectivement, de voir comment va se débrouiller Microsoft sur le marché de la console, parce que c'est Microsoft, hein. Tu sais, c'est les mecs qui font pour...
Ouais, ils ont l'air insolides.
Les mecs, ils font PowerPoint et Clippy. Ils ont fait Clippy. Les trucs, c'est un truc, tu vois. Donc, ouais, ça a l'air d'être une blague. Écoute, remarque bien, il se murmure qu'ils ont failli racheter Sega. D'ailleurs, Okawa lui-même aurait été en négociation, mais finalement, bon, ils ont juste fourni Windows CE comme operating system. Et bon, encore, la plupart des jeux, il n'est pas utilisé. La plupart des jeux utilisent directement le hardware de la Dreamcast. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Mais je suis très curieux de voir comment elle va se comporter face à la PlayStation 2.
Bah, tu me passeras ton console plus là où il parle de la Xbox, ça m'intéresse de regarder un petit peu ce que ça va donner. On va savoir, je vais peut-être acheter une console à l'avenir, ce sera peut-être une Xbox, va savoir. Le GameCube est annoncé, on dit le ou la GameCube?
On dit le ou la Game Boy.
Moi j'ai toujours dit la Game Boy, ça ouais, c'est très clair.
Parce qu'il est clair,
pour moi ce serait la GameCube, mais c'est vrai que ça sonne moins bien. C'est-à-dire un cube quoi. Ouais,
c'est clair que Nintendo il s'en fout des Français en tout cas, ça c'est clair. Ouais, la GameCube, le GameCube en fait, on a vu donc la console, elle est toute petite, vraiment elle est minuscule.
Ça contraste avec une Xbox mettre les deux côte à côte, ça va être rigolo.
Elle est super sexy, mais pourtant elle envoie, hein, parce que quand tu vois les photos de Luigi Mansion. On dirait un dessin animé, et franchement, c'est le Star Fox Adventure ou de Metroid Prime, c'est à la hauteur de la concurrence. Hein. C'est franchement très très joli, hein. C'est au moins à la hauteur de la concurrence. Quoi. Il y a aussi un truc qui s'appelle Pikmin, que c'est Miyamoto lui-même qui a fait, mais j'ai rien compris.
Ça a l'air tout choupinou. Ça.
Ouais, mais j'ai rien compris, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air mignon.
Bon, c'est peut-être juste fait pour être mignon, on va savoir. Ok, très bien, et puis t'as suivi un petit peu de près le 3, alors tu nous as cité quelques titres là tout à l'heure sur ce qui était annoncé, notamment pour la Dreamcast, ou plutôt annulé, mais qu'est-ce que tu as remarqué qui t'avait plu sur le 3?
Bah écoute, les trucs PS2 quand même, hein, il faut bien en parler. Bon, la PS2 elle est chère, elle a pas de jeu.
on sent ton parti pris, il faut bien en parler.
Bah en même temps, c'est vrai qu'elle est chère, elle fait quand même presque 3000 balles. Et c'est vrai qu'elle a pas des jeux incroyables. Je fais un peu ma mauvaise tête parce qu'il commence à y avoir des titres sympas, hein, comme Heroes of Might and Magic. En tout cas, si t'as pas de PC. Ou Onimusha, qui a l'air plutôt, pour le coup, il a l'air assez sympa, celui-là. Ou même Bloody Roar 3. Bloody Roar 3, ça a l'air marrant. C'est Dead or Alive. Mais t'as des persos qui peuvent se transformer en bêtes. Tu sais, façon Altered Beast. Un truc à tester, peut-être. Bon, faut être honnête, hein, le meilleur reste à venir, quand même. Et ça arrive bientôt, puisqu'effectivement, à l'Ecube, on a vu des trucs qui, bon, clairement, vont casser la baraque. Hein. Il y aura Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, il y aura un nouveau Wipeout, un jeu de combat stylé qui s'appelle Devil May Cry, il y aura Max Payne, un jeu de shoot, avec du bullet time à gogo, qui est aussi prévu sur PC.
Et alors bien foutu, ça, hein, c'est l'effet Matrix. Hein.
Ouais, il a l'air vraiment très sympa. Effectivement, c'est bien réaliste avec le bullet time. Moi, ça, évidemment, ça, clairement, ça tente. Il y aura le Half-Life qui aurait dû arriver sur Dreamcast, mais bon, ok, j'arrête avec le Dreamcast. Donc la PS2 va cartonner. Bon, c'est couru d'avance. Ça, c'est clair. Hein, c'est vraiment. Alors évidemment, je trouve ça plus intéressant de savoir comment la relève de la Nintendo 64 va se débrouiller et de la Xbox surtout, parce que la PS2, c'est vrai que voilà quoi, c'est. On va dire c'est un succès annoncé, maintenant c'est fini, tu vois, c'est un peu comme ça. Mais ouais, c'est quand même assez intéressant de voir, comment ça va se passer. Mais bon, il n'y a pas que les consoles dans la vie, toi. Tu joues à quoi sur PC en ce moment?
Ah, moi je continue à jouer à Diablo 2, donc tu vois, je suis à fond tout cet été sur Diablo 2. J'adore ça, donc je continue beaucoup. Starcraft aussi.
Ah, hein. Bah tu sais que j'ai pensé à toi dès que j'ai vu le trailer de Warcraft 3.
Forcément, ça a l'air complètement ahurissant. Je l'ai vu moi aussi.
Ah, le trailer, bon déjà le trailer est magnifique. Hein. C'est la qualité, pas loin de Final Fantasy, du film Final Fantasy d'ailleurs. Ah,
ouais, c'est vrai que les vidéos de Blizzard sont assez incroyables. Ouais. Bon, parfois, ça pourrait être décevant, mais même dans Diablo 2, hein, les cinématiques sont incroyables.
C'est vrai, mais bon, alors heureusement, dans Warcraft 3, c'est quand même tout en 3D. C'est très choupi, très coloré. Ouais. Si t'as aimé le 2, je pense que tu vas adorer le 3. Donc il passe en 3D complète, hein, comme Age of Mythologies. Age of Mythologies, c'est un petit peu Age of Empires, mais version Peplum. Et ça a l'air plutôt rigolo, donc ouais, je testerais bien ça aussi. Et pour toi d'ailleurs.
Avec des héros en plus.
Ouais, absolument. Il y a des héros, il y a des pouvoirs. Enfin, ça a l'air vraiment très très cool. Et plutôt joli en fait, hein. Pour un truc tout en 3D, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et pour toi aussi, j'ai repéré Call of Cthulhu.
J'ai pas entendu parler de ce jeu, mais enfin je bien sûr Cthulhu, j'ai pas suffisamment de temps autour d'une table, mais en jeu vidéo j'ai pas vu.
Écoute, c'est un jeu d'aventure en 3D aussi, donc c'est une sorte de Alone in the Dark mais tout en 3D, tu vois, avec pas de trucs précalculés, okay. Quoi, et surtout c'est Alone in the Dark avec la licence Lovecraft, quoi, donc c'est un petit peu le rêve. Et c'est très beau,
le cachet,
c'est très très beau, c'est un peu cartoon, mais ça reste un peu cartoon dans le style, mais c'est quand même très bien fait, très bien fini. Donc, ouais, un truc à surveiller pour toi, je pense. Et puis, ah oui, si t'aimes bien Diablo, je veux dire, je pense que tu vas adorer Dungeon Siege. C'est le Diablo tout en 3D, quoi, en gros.
Ouais, ouais, ça a l'air complètement incroyable. Ça, j'ai vu des images aussi, ça a l'air dingue. Effectivement, mais tu sais, je suis très amoureux de la licence de Blizzard, moi, de Diablo. Mais faut voir.
Ouais,
tu joues à quoi? C'est quoi, voilà. Sur quoi tu passes ton temps, toi, en ce moment?
Bah, en ce moment, je pense maintenant sur Blender. Sur Blender et Max.
Mais t'as pas une Game Boy Advance, toi?
Si. Ah, mais oui, c'est vrai, je t'avais dit. Bah oui,
tu m'as pas parlé, tu m'as dit que tu me tiendrais au courant un petit peu.
Bah écoute, j'ai une Game Boy Advance. Alors, c'est une surprise, hein. J'avais pas eu de console portable depuis la Lynx. Et donc, j'ai pris Rayman. Et franchement, c'est vrai qu'elle est superbe. Enfin, que le jeu est superbe. Rayman Advance, il est vraiment magnifique. C'est un petit dessin animé. Et c'est vrai que je passe un peu de temps dessus. Et en fait, c'est une console que j'aimerais vraiment aimer. En plus elle est rétrocompatible avec la Game Boy Color, donc en fait virtuellement j'ai une Game Boy pour la première fois de ma vie, mais je suis mitigé parce que j'ai envie d'aimer cette console, mais en fait elle est quasi inutilisable, si rationnellement elle est quasi inutilisable, parce qu'une console portable dont tu vois pas l'écran, c'est un problème quand même, hein. L'écran est pas rétroéclairé, ça me choque pas, c'est comme les autres, tu vois, ça augmente l'autonomie, c'est bon, l'écran est TFT, hein, donc il a une bonne réactivité, c'est cool, mais il est super sombre. Et en plus, c'est un écran brillant. Enfin, en tout cas, il y a une vitre devant et c'est super brillant et t'as les reflets tout le temps. Donc, il faut beaucoup de lumière parce que tu vois que dalle. Mais si t'es dehors, ben, l'écran devient presque un miroir. Et si t'as une lampe derrière toi, bon, faut faire gaffe à bien la voir derrière, mais sans le reflet. C'est une plaie. Et en fait, c'est même pire que sur la Color parce que l'écran est plus sombre. Je trouve que le contraste est moins bon, quoi. Et le blanc est gris. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. C'est vraiment dommage parce que la console a un bon design. L'ergonomie est vraiment très cool. Et l'écran pourtant est pas lisible dans 80% des cas, quoi. C'est vraiment dommage. Pourtant, je suis tenté, hein. Je suis tenté par F-Zero, qui a l'air vraiment très sympa. Castlevania Circle of the Moon, globalement, t'as une sorte de super Nintendo dans la poche, quoi. C'est plutôt des jeux 2D, hein, pour l'instant, ou alors en mode 7 comme F-Zero, donc c'est pas vraiment une PlayStation. Tu sais, qui disait c'est une 32 bits, ouais, c'est une 32 bits parce que le processeur il est 32 bits dedans, mais c'est pas parce que t'as un processeur 32 bits que t'as des jeux en 3D. Tu sais, ce qui fait la 3D sur PlayStation, c'est pas qu'elle est 32 bits, hein. C'est qu'à côté, t'as une unité de calcul vectoriel qui te permet de calculer les points en 3D, de calculer les polygones en 3D, quoi. Mais la Game Boy, en fait, elle a pas ça. C'est une console qui est plutôt taillée pour une superbe 2D. avec des effets spéciaux, mais pas vraiment pour la 3D. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, ce sera déjà super cool d'avoir une méga Super Nintendo, une sorte de méga Nintendo dans la poche. Mais c'est trop foncé, c'est vraiment bizarre.
Faudrait qu'ils revoient leur écran, et puis surtout qu'ils le rétroéclairent, quoi, c'est sûr.
Ah, mais là, c'est une nécessité, il faut absolument qu'ils rétroéclairent, c'est pas possible autrement, c'est une horreur. Et c'est vraiment dommage, parce que elle a beaucoup de potentiel, cette console-là.
Est-ce que t'as vu ce qui va arriver là normalement le 10 septembre Advance Wars sur Game Boy Advance? Ça a l'air complètement dingue ce petit jeu. J'ai vu des images.
Ouais, mais carrément, ça a l'air très sympa. Moi,
c'est
j'aime
typiquement
beaucoup
le genre de jeu qui me ferait plaisir.
Ouais, j'aime beaucoup ce genre de truc. Ouais, non, franchement, elle a beaucoup de potentiel, mais je sais pas. Il faut. Mais bon, après, tu me diras les Game Boy originales. Tu te souviens les loupes avec éclairage qu'on mettait dessus, les gros machins là.
Ah oui, les petits trucs que tu penchais par dessus, effectivement, pour éclairer l'écran.
Bah, il va falloir y repasser, quoi. C'était quand même terrible. Mais en 2001, faire ça, c'est quand même terrible, quoi.
Bah, c'est qu'ils vont peut-être nous vendre les accessoires qui vont bien pour éclairer, encore une fois, l'écran, quoi. Ça leur fait des sous en plus. Ils sont malins chez Nintendo. Ok, eh ben écoute, en tout cas moi j'attends la sortie d'Advance Wars avec impatience là début septembre. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi, mais on verra ce qui se passe. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue là un peu de la tech. Il faudra qu'on songe à en faire quelque chose peut-être de régulier, voir comment on pourrait le diffuser au plus grand
nombre. Écoute, c'est bon, on va pas se faire ça toutes les semaines aussi, non?
Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, j'y prends goût là. Ça faisait quelques années qu'on s'était pas parlé autour de ce qui se passe dans nos petites passions un peu à titre perso. Bah, j'y prends goût. Alors toutes les semaines, ça me semble infaisable, mais qui sait, à l'avenir peut-être.
Ah bah écoute, pourquoi pas. On pourrait terminer sur des recos DVD.
Ah bah oui, au contraire, vas-y, qu'est-ce que t'as à nous recommander en DVD?
Alors bah écoute, moi j'ai vu Hollow Man en DVD il y a pas longtemps et c'est vraiment chouette. Et il y a le coffret, j'ai vu qu'il y avait sorti un coffret La Mouche 1 et 2. Et ça peut être pas mal aussi.
Parfait. Ben en tout cas, tu m'as donné envie là avec en parlant de films avec Final Fantasy. Donc je vais regarder ça de près. Merci beaucoup en tout cas encore une fois d'avoir passé du temps avec moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais il y a des gens qui souhaiteraient rentrer en contact avec toi? Est-ce qu'il faut quoi? Il faut se présenter à la fac?
Il faut se présenter carrément au Cinoche mercredi prochain devant Final Fantasy. Hein.
Ah, bon, on est d'accord.
Comme ça, on pourra en discuter et voir si le fond est à la hauteur de la technique, quoi.
Bah ouais, j'espère. Moi, ça m'a donné envie, encore une fois. Je verrai bien. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, c'est Guillaume Poggiastala et moi, c'est Guillaume Vendée. On enregistrait cet épisode d'émission le 11 août 2001. Bah écoutez, si vous nous avez écoutés, on vous passe le coucou et puis on vous dit peut-être à bientôt, à l'année prochaine, à l'été prochain, Guillaume, peut-être.
Bah, sans doute, à l'été prochain. Allez.
À bientôt, bonne fin d'été, bonne rentrée, ciao.